chronique de Canal Académie.
On retrouve Jacques-Louis Binet, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts.
Aujourd'hui, première chronique, un regard, une œuvre, et nous avons la chance de pouvoir parler d'une exposition qui a lieu actuellement, qui va se terminer mi-janvier 2012, qui a lieu au Grand Palais, sur la famille Stein. Alors, la famille Stein, personne ne sait qui c'est, il faut d'abord en parler. Ça sera la première partie, ensuite on enchaînera sur les deux peintres, il y en a eu beaucoup d'autres, je caricature, sur les deux peintres qui font la gloire de cette exposition, Matisse et Picasso. La famille, ils étaient quatre. Léo était le plus connu, c'est le premier qui soit venu à Paris. C'était une famille riche de San Francisco qui avait gagné de l'argent en installant le tramway de San Francisco. Léo était l'élève modèle des universités américaines. Et venant de Boston, il est arrivé en France pour, soi-disant, être peintre, mais surtout s'intéresser à la peinture. Et il avait des patrons, des parrains célèbres, Alfred Barr, qui ensuite fut directeur du Musée d'art moderne de New York, et puis, paradoxalement, quelqu'un de tout à fait opposé, qui était Bernard Berenson, grand historien de la Renaissance, qui vivait à Florence. Donc, il est venu à Paris en même temps qu'il allait à Florence, 27 rue de Fleurus, nous sommes en 1902, et tout de suite, il se passionne pour ce qui se passait en peinture. C'est lui qui va tout acheter au début, et puis qui en aura assez, qui va s'arrêter. Deuxième élément de la famille, son frère, Michael, qui était plus vieux, qui gagnait l'argent, parce que c'est lui ne gagnait pas un sou, c'était un dilettante riche, et qui avait épousé une femme qui va jouer un grand rôle, qui s'appelait Sarah. Michael et Sarah viennent à Paris plus tard, et s'installent non pas rue de Fleurus, mais tout près rue Madame. Et tous les deux auront, jusqu'en 1911-12, des salons ou des réunions. Le samedi, on commence par aller chez Léo, et ensuite on va chez Michael et Sarah. Et puis celle qui est la plus connue, c'est la dernière, c'est Gertrude. Gertrude arrive aussi simplement en 1903, donc elle arrive après son frère, elle n'y connaît rien, elle vient pour écrire. Mais tout de suite, elle est fascinée par ce que fait son frère, qu'elle ne comprend pas toujours. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la famille ne comprend pas toujours ce qu'ils font. Ils achètent, mais sans trop souvent comprendre. Et elle est venue pour écrire. Alors, elle est devenue célèbre aussi à cause de ses amitiés féminines. Et elle va vivre à partir de 1907 avec d'Alice Toksas. Et elle va faire une fausse autobiographie d'Alice Toksas. Et puis, après la guerre de 14, ils peuvent moins acheter. Elle, Gertrude, n'achète plus, mais elle organisera un salon littéraire que fréquenteront Hemingway et Fitzgerald. Voilà la famille. Je ne traîne pas plus sur la famille, parce qu'au fond, leur achat est commun, et ils vont s'échanger les tableaux. Et on passe tout de suite à un grand tableau. C'est La Dame au chapeau de Matisse, 1905, et c'est l'événement du fauvisme. Alors quand même, un petit mot de ce qui s'est passé avant. Matisse avait peint déjà depuis un certain temps et au début du siècle, il était complètement découragé. Il ne voyait pas ce qu'il pouvait faire. Il avait été clerc de notaire, il avait aussi appris à peindre chez Gustave Moreau, qui l'avait beaucoup encouragé en disant « je ne peux rien vous apprendre, faites ça tout seul ». Il avait découvert un peu la couleur, mais pas vraiment. Il était très rigoureux, enfermé dans son rigorisme avec déjà le problème de l'opposition entre le dessin et la couleur. Sa renaissance, si je peux dire, c'est l'année d'avant. Renaissance liée à un de ses amis, très connu aussi, qui s'appelait Signac, et qui inventait le pointillisme. Et Signac lui a dit « Ne reste pas à Paris, viens dans le midi, tu verras autre chose ». Alors il est complètement fasciné, mais en même temps déboussolé par le midi. Par la lumière, invraisemblable. Au début, il ne comprend rien. Il ne sait pas ce qu'il faut faire. Et il trouve qu'au fond, la technique un peu scolaire, finalement, des pointillismes, la technique de Signac, était utile pour dire quelque chose sur la couleur. Donc, la révélation pour lui, c'est un tableau qui s'appelle « Luxe, calme et volupté », 1904, où il se sert de la technique de Signac, mais il fait quand même des lignes. Ces petits points alignés, ça constitue une ligne. Il traduit la couleur puis il n'est pas parfaitement content. Par contre, il dit déjà qu'il, pour lui, il découvre ce qu'il appelle la gamme éclatante du temps de Gustave Moreau. Il découvre vraiment la couleur, et ensuite il se lance à plein dans la couleur. Le biographe de Matisse, qui est Pierre Schneider, écrit « Tout ici commence », ou plutôt « Tout est prêt à commencer », et on sort de la logique pour aller à la peinture pure. Ça, c'est le début de Matisse. Alors, le début de Matisse, encore une fois, c'est le premier tableau dont on va un peu parler. C'est la Dame au chapeau, 1905. Ou alors là, il se laisse complètement aller. Il n'y a plus de points. Il y a toujours la couleur. Mais la couleur ne se traduit plus sous forme de points. Elle se traduit sous forme de taches. Et en même temps que la tache, il y a souvent l'épaisseur de la pâte. Tout ça, c'est mêlé. Donc, à première vue, des tableaux extraordinairement violents à propos d'un personnage, d'un portrait. Il va être obsédé par les portraits pour traduire non pas l'extérieur, mais l'intérieur du sujet qu'il peint. Et ce portrait n'est autre que sa femme, qui est, d'après la critique, caricaturée par un chapeau énorme où toutes les couleurs se mêlent, le bleu, le vert, le rouge. Au-dessous, quelque chose qui va respecter quand même, c'est le visage. Mais même polychromatisme, c'est-à-dire beaucoup de rouge, les cils sont rouges, les lèvres sont rouges, mais en même temps un vert et un bleu, et le visage est très figuratif. Et puis tout en bas, redéchaînement de la couleur, le visage étant quand même à peine protégé. Donc on va dire qu'elle est peinturlurée, elle n'est pas peinte, mais elle est peinturlurée, et le bas, c'est-à-dire son tronc, si je peux dire, son corps, sa poitrine, ses vêtements et ses bras sont complètement endigués par la couleur. Mais lui est très heureux, il écrit « C'est la première fois de ma vie que j'étais content d'exposer. C'est pas peut-être un tableau très important, mais les choses ont le mérite d'exprimer d'une façon très pure mes sensations. » Donc enfin, par la couleur, et la couleur pure, sans rien qui la contient, exprime ses sensations. Et il l'expose au Salon d'automne, scandale. C'est à ce moment-là qu'on prononce le nom de Fauvis, mais paradoxalement, ses petits copains étaient beaucoup plus connus que lui et ont été achetés. Alors que lui, un fou qui passait là, qui n'était autre que Léo Stein, dit « Je comprends rien, c'est un dingue, mais c'est un tableau tellement fou, il revient. » Il y va plusieurs fois, il essaye de changer un peu le prix, il le diminue à peine, 500 francs à ce moment-là, qui est une somme soi-disant importante. Et finalement, il achète en disant « Je ne sais pas ce que je fais, mais je ne peux pas ne pas l'acheter. » Donc, c'est Léo qui se fascine d'abord pour Matisse et qui le montre à sa sœur. Et ils sont tous fascinés par Matisse. Mais attention, Léo va voir, introduit par Pierre-Henri Rocher, un autre peintre qui sera Picasso, dont on parlera plus tard. Et on continue sur Matisse parce que ce tableau a une suite. Salon d'automne l'année d'après, 1906, « La joie de vivre ». Tableau tout à fait différent. C'est déjà un mythe, c'est déjà un conte. Mais toujours la couleur. Mais la couleur qui est cette fois-ci contrôlée. D'abord par un thème. On ne représente plus une femme au chapeau. On présente un sujet, la joie de vivre. Et déjà des cernes. La couleur est là, mais contenue, déjà un peu réglée. Et derrière, il y a l'ébauche de ce qui sera la danse. Et à côté, il y a un personnage qui s'étend avec une grosse chevelure. Il va la reprendre pour l'année d'après. Alors, la joie de vivre ne figure pas à l'exposition, il y a juste l'ébauche. Par contre, figure le tableau d'après, Salon d'automne 1907, le nu bleu, tableau presque choquant. Presque choquant, pas par la couleur, mais par les formes. C'est un nu, et un nu, moi je trouve très violent, plus que sensuel, violent, avec une femme tordue. C'est intitulé « Souvenir de Biskra ». Il veut découvrir l'art musulman. Il veut découvrir ce qui se passe en Afrique. Et il dit « Je ne comprends pas très bien, il faudra que je revienne ». Il ne peint aucune note de ce qu'il a vu en Afrique. Mais au retour, il peint ce nu qui n'a rien d'africain, qui est simplement violent, avec un bleu très fort, qui joue l'ombre, avec un corps qui est coloré, mais pas tellement, et derrière, deux platanes qui sont là pour constituer un fond qui ne s'accorde pas très bien au corps du personnage, qui dépasse les tailles de son atelier. Et le cadre est presque bousculé par les bras de cette femme. Et en même temps, il fait une sculpture. Et ce qui est très intéressant, c'est que la sculpture, qui est à mon avis plus significative que la peinture, la sculpture, il la casse. Et c'est à ce moment-là qu'il s'énerve sur le tableau pour parfaire son tableau en disant « je ne sais pas si j'arriverai à faire la sculpture ». Puis il la refait, elle est tirée en bronze, et à mon avis, elle exprime mieux. Ce qu'il a voulu à ce moment-là, c'est une forme de sensualité. Il touche avec les mains. Il dit au fond, et ça c'est très intéressant, c'est Matisse typique, la sculpture est là pour prendre le relais de la peinture. Ce que je n'arrive pas à faire en peinture, je vais le faire en sculpture, parce que là, je touche le corps de sa femme, je lui tords son bassin. Elle a le bassin qui est tordu par rapport au reste du corps. Ben, je lui ai tordu et je lui ai levé le bras. Quelque chose de très physique en même temps. Alors, la famille va se redistribuer. C'est Michael et Sarah qui vont être les amis de Matisse jusqu'à la fin de leur vie, même s'ils n'en achètent plus. Matisse, d'ailleurs, fera un superbe tableau de Sarah, qui est une femme qui devient très religieuse, très intérieure. Et le tableau est totalement intérieur. Bon, totalement intérieur. Bon, le mari est représenté, mais d'une manière un peu plus conventionnelle. Ensuite, un autre tableau fascinant, qui est celui d'un autoportrait de Matisse. Et ce qui est très important, c'est que Sarah dit, c'est pas du tout un tableau intime. On voit Matisse qui a l'air de 1906, la couleur. Sur la gueule, il a du vert. Bon, trois couleurs, noir, vert et rouge. Il reste très fauve. Et elle dit, c'est un tableau qu'il ne faut pas montrer, il est trop intime pour être montré au public. Elle trouve qu'il se laisse trop aller à lui-même. Il se dit trop lui-même avec l'esprit du fauvisme. Voilà pour Matisse, immense peintre, immense peintre. Et on enchaîne avec l'autoportrait, 1906, sur Picasso, car là encore, on tombe dans les portraits. Alors, Gertrude va être passionnée par Picasso. Pas tout de suite. Pas tout de suite, mais assez vite passionné. Lui, Léo, est passionné. Il achète les tableaux d'avant, c'est-à-dire un enfant nu qui conduit un cheval, et Gertrude lui demande de faire son portrait. Alors, c'est vrai ou c'est faux, soi-disant 90 séances. Je ne sais pas si c'est vrai. Franchement, je ne suis pas sûr que ça soit vrai. On disait qu'ils étaient amants, ce n'est pas du tout vrai. Gertrude n'aimait que les femmes. Ils parlaient mal, l'un et l'autre le français, et leur français était leur seule langue commune. Et Picasso fait un chef-d'œuvre totalement réaliste. Il faut bien se mettre ça dans la tête. L'année d'après, il allait faire les Demoiselles d'Avignon. Là, il fait un tableau qui est une sorte de masque intérieur, mais totalement réaliste. La tête aurait pu être faite par Ingres. Et les seules variations un peu nouvelles, c'est sa veste, sa blouse, ou qui pourrait vaguement évoquer le cubisme. Mais ce qui a d'important, c'est sa tête, où elle apparaît avec une grande volonté, une certaine violence qui correspondait à son caractère. Réaction du public, elle ne lui ressemble pas. Réponse de Picasso, vous inquiétez pas, elle lui ressemblera. Et quand on voit à l'exposition les films, c'est une grosse dame moche, hein. Bon, moche, il faut bien dire. Eh bien, là, elle est plus moche, elle a du caractère, et elle est très belle. Bon. Et en même temps, ce qui est très intéressant, Picasso fait son autoportrait. Picasso se pointait toujours par rapport au personnage. Donc, il fait son autoportrait, qui est un autoportrait très simple, en ligne courbe, circulaire, 1906, avec, je ne sais pas pourquoi, un œil au beurre noir. Et puis arrive la grande période de Picasso, c'est-à-dire les Demoiselles d'Avignon. Alors là, ils sont fascinés aussi. Mais Léo se tire. Léo en a marre de Picasso. Il rate tout. Il faut qu'il s'arrête. Tandis qu'elle achète des dessins, et puis le laisse travailler. Et ce qui est très intéressant, c'est que Picasso, après, refait un autoportrait de lui-même. C'est le même qu'avant, complètement changé. Tout est droit, tout est angle, tout est angoisse. Alors que le Picasso de 1906 était au fond un gentil espagnol. Voilà, à mon avis, ce qu'il y a de plus intéressant dans cette exposition. Et ça, je reprends. La dame au chapeau, c'est la découverte du fauvisme et tout ce que Matisse va en faire après. L'histoire du cubisme qu'on voit à l'envers, parce que les Demoiselles d'Avignon, elles ne sont pas là. Mais on voit avant et après. Et puis, le relais des portraits, des autoportraits d'eux-mêmes qui se montrent. Voilà, à mon avis, c'est une exposition assez brève. Il n'y a pas tellement de tableaux, c'est-à-dire une très bonne exposition.